Il y a les 10 merci, fêtez lassé. Quel livre on lit ce soir? Il y a les rires francs et communicatifs. Il y a les discussions sans aucun sens. Il y a les débarrasse ton assiette. Toutes ces petites choses qui font la vie en version parent. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Valentin. Il est suivi par plus de 114 000 personnes, alors peut-être que vous faites partie de sa communauté. Il est surtout animateur radio, dont 8 ans à la matinale d'énergie, ce qui lui donne un net avantage sur la maîtrise d'un sommeil anormal. Et pourtant, il a décidé de devenir papa. Cet éternel adolescent a été foudroyé d'amour pour son fils Leonardo, qui a 2 ans aujourd'hui. Mais est-il pour autant devenu totalement responsable et rangé? Ah, ça, on va lui demander. Je m'appelle Carole Tolila, je suis journaliste, maman de 2 enfants et comme Valentin, j'ai le mode parent activé. Bonjour Valentin.
Bonjour Carole.
Oh, cette voix de radio. Bienvenue dans le studio que tu connais sûrement, donc bienvenue chez toi, j'ai envie de dire.
Oui, je connais un peu, je suis déjà venu ici, ouais. C'est pas mal, hein, très beau locaux.
Ouais, on est bien. On m'a dit de sources sûres que tu es un peu le gendre idéal et que tu adores raconter des histoires. Est-ce que cette définition te plaît?
Ah ouais, j'aime bien, ouais. Bah, gendre idéal, après, il y a le côté un peu lisse et propre. Mais raconter des histoires, ouais, j'adore. Je le fais à la radio et je le fais sur mes réseaux sociaux aussi, où j'adore raconter des choses, histoires insolites.
Mais là, tu vas nous dire que la vérité, rien que la vérité, quand même.
Ah là, je vais, oui. Ouais, là, je dis que la vérité, promis, je le jure.
Alors, on reprend ta bio. Tu viens d'une famille nombreuse, 2 sœurs, 1 demi-sœur, 2 demi-frères. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce modèle? La famille, c'est sacré ou au contraire trop pesant pour toi?
Ah non, pour moi, c'est sacré, la famille. J'ai grandi vraiment là-dedans, où on faisait toutes, même avec mes frères et sœurs, on faisait tous nos vacances ensemble. Et c'était un joyeux bordel, parce qu'on partait tous ensemble dans la voiture. Du coup, on avait une grande voiture. Les plus grands drivaient les plus petits. Moi, je faisais partie des plus petits, parce que je suis l'avant-dernier. Et on se faisait aussi un peu écraser, il faut le dire, par les plus grands. Mais c'est la règle du jeu, un peu.
Il fallait t'imposer.
Ouais, mais c'était compliqué, parce que moi, j'étais du coup entouré au quotidien. Je vivais avec mes 2 sœurs, donc j'étais entouré par une grande sœur et une petite sœur. Et donc s'imposer, c'était compliqué. Surtout quand elle m'imposait leur série. Elle regardait une série qui s'appelait Heartlaker à vie.
J'ai adoré, normal.
Voilà.
Attends, Bolton.
Elle aussi adorait, mais moi je détestais. Drazik et Bolton, exactement. Et du coup, elle choisissait, quoi. Elle m'imposait pas mal de choses.
Alors petit, est-ce que tu te projettes en tant que père? Est-ce que tu te vois à la tête d'une tribu, vu que tu as beaucoup de frères et sœurs?
Ben moi, très jeune, je me suis dit que je voulais avoir des enfants et je voulais même une famille nombreuse. Alors, mais la famille nombreuse a diminué au fur et à mesure que j'ai grandi. Ouais. Parce qu'au début, on était plus sur 4 enfants, après on est passé sur 3. Et là, j'en ai 1 et je me dis que c'est déjà bien.
Ah ouais?
Ouais. Bah après, je verrai, hein. Peut-être un deuxième dans quelques temps, mais pas tout de suite, on a le temps.
C'est intéressant, c'est-à-dire que vraiment, au départ, tu te projettes papa d'une grande tribu, quoi. Ça ne te fait pas peur d'avoir 4 enfants?
Comme c'est mon modèle et que j'ai grandi là-dedans et que ça a l'air assez simple, parce que ma mère travaillait beaucoup, mais elle faisait aussi en sorte d'être là à chaque fois pour nos dîners et d'être présente, je me dis que ça se faisait bien, quoi.
Okay.
Ça me paraissait simple, en fait. Ça me paraissait accessible quand j'étais plus jeune.
Ça l'est un peu moins maintenant, apparemment.
Voilà, c'est ça.
Alors, t'es très spontané, t'adores prendre des décisions sur des coups de tête, je sais. Explique-nous cette histoire de tour du monde.
Alors, je suis arrivé à la fin de mes études. Un an avant la fin de mes études, j'ai gagné un jeu télé. En fait, j'ai sur la fin d'un stage, je m'ennuyais un peu, un stage qui durait 1 an. Et je me suis dit, je vais m'inscrire à une émission télé. J'ai vu un casting passer pour une nouvelle émission télé sur TF1 qui s'appelle Les 12 coups de midi, qui est l'émission du midi.
Qui est très connue.
Ouais, présentée par Jean-Luc Reichmann. Je me retrouve à cette émission qui était du coup nouvelle à l'époque. Et je finis par rester 13 émissions, donc 13 fois champion.
Oh là là!
Donc, je gagne une grosse somme, je gagne
bon,
tout ce qu'il y avait.
Bon.
J'étais pas mauvais. Ouais. Je gagne une voiture, un scooter, tout ce qui va avec. Et à la fin de mes études...
Donc là, t'as quel âge?
Là, j'ai 22 ans.
Ouais, tu te sens le roi du monde, là.
Ouais, ah ouais, là, t'es pas mal, ouais.
Ouais.
Ouais, t'es plus riche de tous tes amis, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai distribué un peu à droite, à gauche.
Tu payes la bouteille en boîte, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'ai aussi laissé de côté. Et à la fin de mes études, je me dis que j'ai pas trop envie de commencer tout de suite dans la vie active. Et donc,
Attends, tu faisais des études de quoi?
D'école de commerce. Donc, bac plus 5. J'arrive à la
donc,
fin.
Donc, t'as quand même fait un peu la teuf.
En école de commerce, ouais. C'est un des trucs qu'on fait en école de commerce.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, aller dans la vie active, tu y réfléchis à 2 fois.
Bah ouais, alors tous mes potes, pour coup, y allaient, parce que tout le monde commençait à travailler. Et moi, je me dis que j'ai un peu d'argent de côté, j'ai un peu de temps où je peux prendre du temps. Et 2 semaines avant la fin de mes études, je prends un billet pour partir en tour du monde.
D'accord. Mais comme ça, du jour au lendemain?
Comme ça, un peu sur un coup de tête, ouais.
T'avais eu quelqu'un qui t'avait parlé de quelque chose?
Même pas.
Une louche.
J'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir le monde. Et en plus, je pars tout seul. Je décide de partir tout seul, puisque personne n'avait gagné un jeu télé. J'avais aucun ami.
Personne n'avait l'argent sur son compte.
Et voilà, c'est ça.
Et donc, première escale, c'est où?
Première escale, je commence en Asie. Je commence au Vietnam, je commence.
Donc là, tu as dû apprendre un peu des choses sur toi-même.
Exactement. On apprend des choses sur nous-mêmes et on se
et
met...
Et j'ai vu que j'étais chiant.
Et je me suis détesté. Et non, on se met dans un autre mode, en fait. Il y a une espèce de switch à un moment, ouais, où j'ai commencé à aller parler à tout le monde, à rencontrer des gens. Et tu te dis, il peut tout m'arriver. En fait, je m'en fous de ce qui m'arrivera. Je vais profiter de ce moment. Et j'en garde un souvenir incroyable. Et effectivement, ça m'a changé. Pour le coup, je suis ressorti surchangé de ce tour du monde.
Tu as envie de profiter de la vie. Et justement, quand tu rentres, tu veux réaliser ton rêve. Tu intègres une radio, c'est ça?
Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite.
Ah, il me manque un petit morceau dans la bio.
Ouais, parce que pendant que je suis autour du monde, l'endroit où j'avais fait mon stage, qui était un cabinet de conseil en nouvelles technologies, me rappelle et me dit on t'embauche. Donc j'ai le truc rêvé. Je rentre en août, en septembre, je commence un CDI. Un CDI qui va durer 2 ans. Donc vraiment un travail assez banal dans des bureaux. Et au bout de 2 ans, je me dis, en fait, tu vas pas passer toute ta vie dans des bureaux. J'avais 27 ans à l'époque. Et je me dis, fais ton rêve de toujours. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné de radio. Et je me suis dit, essaye, sinon tu le feras jamais. Et essaie de te reconvertir dans la radio. Et donc là, je reprends des études à 27 ans. Je me retrouve dans une école de radio qui s'appelle le Studio École de France. Et je me retrouve qu'avec des petits de 18 ans, 18-20 ans. Donc j'étais vraiment le vieux de la bande. Et là, je fais de la radio.
Forme.
Quoi. Ouais, je me forme à la radio et je me retrouve en stage à Énergie.
Et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier?
La radio, c'est le côté proche des gens, en fait. Moi, depuis que je suis tout petit, j'écoute la radio dans mon lit. Je mettais mes écouteurs tous les soirs, j'écoutais les libres antennes et je me sentais super
doc
proche.
Doc et Difool.
Ouais, et j'écoutais. Alors, il n'y a pas le doc, moi, il n'y a plus le doc, il n'y avait que Difool.
Ça va, on n'a pas tant de différences que ça.
J'ai connu. Exactement, j'ai beaucoup écouté Difool. Je les ai beaucoup appelés aussi. J'appelais tout le temps les radios, beaucoup pour jouer. J'adorais déjà jouer à l'époque.
Oui, puis ça t'avait réussi.
Et ça m'avait plutôt. À l'époque, déjà, je gagnais beaucoup de cadeaux, ouais. Et du coup, c'est ce truc-là dans la radio, le côté proche des gens qui m'a toujours plu et le côté divertir, faire rire les gens. J'ai toujours aimé. Après, j'ai évolué. Après Difool, je suis passé à Laurent Ruquier, qui est un peu la version, on va dire, adulte en radio. Et donc, j'ai toujours été passionné de radio et je suis heureux d'avoir fait le switch. C'est plutôt bien passé, quoi.
Donc, tu arrives chez Énergie et tu arrives à accéder à la matinale, qui est quand même l'émission phare,
ouais,
où tu dois dire pas mal de conneries, pas mal de blagues. Est-ce que tu aimes ce rôle-là d'adolescent?
Ah, j'adore. Alors, au début, les conneries, je les dis au standard, puisque j'étais du coup côté du standard où on décroche les appels des gens. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à accéder à l'antenne. Manu m'a mis à l'antenne avec le surnom de Glandu à l'époque, où je suis venu raconter en fait mes expériences de vie. Il a dit, t'as 27 ans, donc tu vas venir nous parler de toi, des choses que t'as faites, puisque t'es pas comme ceux qui commencent en radio qui ont 18 ans. Et donc, j'ai commencé à venir raconter ma vie à l'antenne.
Et heureusement, t'avais un stock d'anecdotes.
Et heureusement, j'avais fait un tour du monde, j'avais fait des jeux télé, donc j'avais des choses à raconter. Et dès la deuxième année, donc je suis arrivé à l'antenne, on va dire, en co-animateur. Et nous, on fait une émission très quotidienne. On va raconter justement des choses qui nous sont arrivées dans nos vies. On va se mettre en scène. On va dire des personnages. Les personnages, c'est ce qui nous caractérise. C'est nos traits de personnalité qu'on va grossir et avec lesquels on va s'amuser.
Donc là, on n'est pas dans le schéma du mec posé qui a envie d'avoir des enfants. On est d'accord?
Ah non, pas du tout.
J'ai
mis du temps à l'être dans ce schéma. Et je ne sais pas si je le suis aujourd'hui.
Ah ouais?
Non.
Ah, intéressant. Mais alors, quand tu rencontres une fille, tu te projettes quand même un petit peu? Tu dis, ah, elle pourrait être la mère de mes enfants?
Oui, parce que moi, j'ai eu une des relations très longues. Du coup, ma relation avant celle que j'ai aujourd'hui avec Pauline, elle a duré 7 ans. Donc, on est resté très longtemps ensemble. Et oui, je me projetais dans le fait d'être père et on en parlait même.
Vous en parliez?
Ouais.
Et finalement, ça l'a pas fait?
Ça l'a pas fait au moment où c'est devenu très concret. Au moment où on a commencé à parler enfant, vraiment on va faire notre premier bébé, et ben là, j'ai eu une espèce de panique où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est la bonne personne? Et donc, je me suis posé des questions parce que moi, jusqu'ici dans la vie, j'avançais. Ça veut dire que j'avançais beaucoup au jour le jour, quoi, sans trop me retourner en me disant, bon, c'est quoi la suite? Et là, je me suis posé des questions et je me suis dit, est-ce que c'est la bonne personne? Et est-ce que je vais pas rester quelques années avec cette personne? On aura un enfant et du coup, je vais faire du mal à tout le monde, quoi. Et je me suis rendu compte que non, en fait. Enfin, que c'était pas la bonne voie pour moi à ce moment-là, à ce moment donné. Et du coup, on s'est séparés.
Donc là, à ce moment-là, tu te dis, je ne suis pas fait pour être père?
Ouais,
ou
exact.
Je ne suis pas fait pour être avec cette personne.
Je suis pas fait pour être les deux en fait. Je suis pas fait pour être père et je suis peut-être pas fait pour être père avec cette personne.
Et
C'est un
finalement,
mélange des deux.
quelques temps plus tard,
Ouais.
tu rencontres Pauline, on vient de la citer. Alors, tu la rencontres à l'antenne,
Oui.
les gens ont suivi la love story. Qu'est-ce que ça change pour toi à ce moment-là?
De rencontrer Pauline?
Ouais.
Elle m'apporte.
C'est le moment déclaration d'amour, vas-y, lâche-toi.
Non, mais Pauline, elle m'a apporté plein de choses. Déjà, elle est très, 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 très drôle. Et Pauline, beaucoup de gens qui la rencontrent le diront, elle fait du bien. Ça veut dire quand on rencontre Pauline, elle te donne confiance en toi et elle te fait croire, mais j'espère que c'est vrai, que tout est possible. Et ça, c'est une des grandes forces de Pauline. Et donc, alors ça a mis un peu de temps, on va dire, pour s'installer dans notre relation. Mais j'ai plus eu peur, quoi. J'ai plus eu peur d'être papa, j'ai plus eu peur de la suite. Et puisque la suite, en fait, je la vois avec elle.
Combien de temps tu dirais qui s'écoule entre le moment où tu la rencontres et le moment où vous décidez d'avoir un enfant?
Je dirais 2 ans et demi quand même, 2 ans et demi, 3 ans. Ça allait assez vite au
Et c'est
final.
toi qui parles bébé ou c'est elle?
On n'en parle pas trop au début, parce qu'au début on est dans le mode on fait la fête et on profite. Et après, en fait, quand on a commencé à en parler, on a mis, on va dire, 1 an à commencer à en parler. Et 1 an plus tard, bah, c'était parti, quoi. On lançait la machine.
Et là, t'as de nouveau des doutes ou pas?
Et là, non, j'ai pas eu de doute. En fait, ça allait très vite. Entre le moment où on s'est dit, allez, on y va, et le moment où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, je pense qu'il y a 6 mois qui sont écoulés. Peut-être un peu plus. Mais du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir des doutes. Et quand ça s'est fait, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, allons-y.
Comment se déroule la grossesse? Est-ce que toi tu t'impliques dans la grossesse? Quel genre de papa tu es?
Moi, je m'appliquais pas mal dans la grossesse.
Ah bravo!
Ah oui, quand même. Alors
Ouais.
même, c'est vrai que nous, du coup, on regarde ça toujours avec
Ouais.
les papas avec un œil extérieur, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je faisais au maximum pour en sorte que ça se passe bien. Donc ça veut dire si elle avait des envies, c'est moi qui pouvais sortir à minuit pour lui acheter. Elle avait des bonbons, elle adorait les bonbons qui piquent à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Elle avait une lubie où elle s'engouffrait
Des bonbons
des
acides.
baguettes de bonbons acides, ce qui était très mauvais d'ailleurs. Et donc, bah, je faisais en sorte qu'elle ait tout ce dont elle avait envie ou besoin à ce moment-là, quoi.
C'est ta façon de t'impliquer à ce moment-là.
Ouais, c'était ma façon de m'impliquer. Alors après, on essaie aussi d'en parler. Il y a des choses que nous, on peut difficilement gérer. Les douleurs. Si, je faisais des massages aussi à ce moment-là.
Eh
J'avais pas
bien!
mal de massages, ouais. Les massages des pieds, elle aimait bien.
La grossesse se termine, c'est le jour J, l'accouchement. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu n'es pas en panique ce jour-là?
Je suis présent, alors je pars de matinale pour aller du coup à la maternité. Et la panique qu'on avait, c'est qu'on n'en avait pas de prénom. On n'avait pas
Ah!
trouvé le prénom encore. On avait une shortlist de prénoms.
C'est-à-dire, vous n'étiez pas d'accord?
On n'était pas d'accord. On avait une shortlist de 4 prénoms sur lesquels on s'était mis
Et
d'accord.
tu connaissais le sexe?
Et on connaissait le sexe, oui. Par
Ok.
contre, on connaissait le sexe. Et il y a des applications, des espèces de Tinder des prénoms, où ils te proposent des prénoms et tu swipes à gauche ou à droite. Et ensuite, si tu as des prénoms en commun avec ta copine, ils apparaissent. On est arrivé sur une shortlist de 4 prénoms et il a fallu choisir. Et on a choisi en salle d'accouchement, 4 heures avant l'accouchement, on s'est mis d'accord sur le prénom Leonardo. Magnifique.
C'est toi qui as lâché?
Non, en fait, on était d'accord. Dans les 4 prénoms, vraiment, les 4 prénoms de la shortlist, on était d'accord pour que ce soit des prénoms. Alors, il y a beaucoup le caractère anglophone, alors qu'on n'a pas du tout de racines anglaises. Et on a choisi un prénom consonance italienne plutôt. Parce que Pauline a des racines italiennes pour le coup.
Après l'accouchement, il paraît que tu as fait du pot à pot et que tu as beaucoup pleuré. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ce jour magnifique de ta vie? Est-ce que tu t'es senti papa à ce moment-là?
Ah ouais, là c'est vraiment une claque quoi. Quand la maman du coup a accouché et on va dire est en mode récupération, donc elle est KO, ben, on se retrouve seul avec le bébé. Et oui, à ce moment-là, tu le prends dans tes bras, tu le mets en peau à peau. Et moi, je me rappellerai toujours, parce que maintenant c'est, je pense, ma chanson préférée, je lui ai mis la chanson d'Elton John, Your Song.
Ouais.
Et là, effectivement, je l'ai mis et j'ai pleuré. Et j'ai beaucoup pleuré ouais, en l'ayant sur moi. Et à ce moment-là, tu te dis bah ma vie va changer quoi, ma vie va être complètement différente. Il y a ce petit qui compte sur moi quoi.
T'avais envie d'être plus responsable à ce moment-là?
Je pense que ouais, je pense que ça m'a changé en termes de responsabilité. Oui, c'est-à-dire que maintenant je fais plus les choses en pensant que à moi. Déjà par la force des choses, il y a un agenda qui est différent. Et en plus, ouais, tu dis t'as ce petit, t'as cette responsabilité et tu veux le rendre fier et tu veux faire en sorte qu'il manque de rien.
Et est-ce que tu es sûr que cet enfant ne va pas te pousser à faire encore plus de bêtises ou encore plus de choses un peu folles? Parce que finalement, un enfant, c'est quand même l'enfance, enfin, tu vois, l'insouciance. Et toi, tu as l'air de fonctionner avec ça.
Ben, moi je demande que ça, hein, s'il me pousse à faire des bêtises. Non mais c'est vrai, est-ce qu'on fait des métiers quand même assez fous où on ne sait pas de quoi ça sera fait demain et où on est là pour se marrer. Donc s'il fait en sorte que je reste un grand enfant, moi ça me va très bien.
T'es gaga ou pas?
Ouais, je suis complètement gaga. Alors j'essaie de pas trop la voir, ce truc des parents qui te montrent des photos et des vidéos de leur enfant en étant complètement gaga. Parce que je sais que je l'ai connu quand j'étais plus jeune et que j'ai pas, quand j'avais pas d'enfant, quand je voyais ça, je disais bah ok, c'est cool, il est mignon, mais je m'en foutais un peu quoi.
Et
Et donc
là,
j'essaie de pas trop l'être et quand même je le suis, ouais, tu peux demander à
mais
mes
là,
collègues.
actuellement, tu portes un t-shirt avec la photo de ton enfant.
Ceci est faux, hein, je précise, puisque c'est du son.
Alors, on ne pourra pas vérifier. Il y a des choses pratiques qui ne sont pas du tout ton truc. Est-ce qu'on peut parler des vêtements que tu as choisis pour la maternité à ton bébé?
Ouais, ça, j'ai honte de ça. Non, et ça, c'est aussi à cause des conseils qu'on nous avait donnés. Parce qu'on nous avait dit, oui, Valentin, t'es grand, on dit toujours qu'il faut acheter des vêtements de naissance au bébé, mais ça sert à rien, achète directement des vêtements un mois. Puisque ton bébé, il va naître, il va être grand, ça lui ira très bien. Donc, nous, on avait apporté des tenues à la maternité de un mois, ce qu'on nous avait conseillé. Et quand le bébé naît, là, les infirmières nous disent, bah, est-ce que vous pouvez nous montrer les vêtements que vous avez apportés? On leur montre les vêtements et elles nous disent, mais ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand ce que
Il
vous avez mis.
flottait dedans.
Il flottait dedans. Elles lui mettent une tenue un mois, elles disent la plus petite, entre guillemets, et elles le mettent dedans et effectivement, il flottait dedans. Et donc là, ça a été un petit stress supplémentaire, mais bon, ça allait. J'ai filé acheter des tenues du coup de naissance au bébé. Ensuite, j'ai filé à la maison pour nettoyer les tenues parce qu'on voulait pas lui
Ouais.
mettre neuves.
Il faut les laver, tout
Et
à fait.
voilà, et tout ça en quelques heures, quoi.
Et est-ce que tu t'es fait engueuler à l'arrivée parce que tu n'avais pas choisi le beau body?
Alors non, à l'époque on s'en foutait un peu du style quoi.
Bon,
C'était un
ça va.
body à sa taille, c'était largement suffisant.
Donc, on ne t'a pas donné le bon conseil. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'aident dans ton rôle de père? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu t'informes? Est-ce que tu écoutes des podcasts?
Alors moi je fonctionne beaucoup au feeling, je dois fonctionner comme ça dans ma vie et ça continue avec mon bébé. Donc je suis beaucoup à l'écoute et essayer de comprendre ce qu'il veut. Après sinon il y a Internet. Les moments où ça bloque, c'est vrai que j'utilise Internet. Il y a une recherche, je pense que c'est une des recherches que je fais le plus depuis que je suis papa. C'est le nom d'un aliment et à partir de quel âge. Donc
D'accord.
fraise à partir de quel âge,
Ouais.
truc à partir de quel âge, pour savoir à partir de quel âge je peux donner ça à mon bébé.
Donc tu te sens père assez naturellement, j'ai envie de dire.
Oui, c'est assez naturel. En fait, je le vis pas. J'avais peur de le vivre comme une contrainte, de plus pouvoir sortir, de devoir être présent pour lui. Et en fait, pas du tout. En fait, franchement, c'est que du bonheur, quoi.
Attends,
Ouais.
fais pause.
Qu'est-ce qu'il y a?
Excuse-moi, mais t'es obligé d'arrêter un peu trop la fête. T'es obligé, t'as quand même des contraintes.
Je l'ai arrêté, ouais. Je l'ai arrêté, mais de façon assez naturelle. Je le vis pas du tout comme une contrainte. Et nous, on s'est toujours dit aussi avec Pauline qu'on ferait en sorte aussi de se garder des moments. Donc pour aller au resto en amoureux, pour même faire la fête. Donc on a de la chance d'avoir quand même une grand-mère qui peut être présente. Et donc on peut se permettre ça.
Donc t'as l'impression d'être toujours toi, le toi d'avant?
Oui, je suis le moi d'avant un peu changé. C'est-à-dire que je suis toujours le grand enfant, mais qui sort un peu moins quand même, ouais.
D'accord. Et alors quel mode de garde tu as choisi pour justement pouvoir encore faire la fête?
Nous, on a une nounou. On a une nounou qui. Donc, c'est une co-famille. C'est-à-dire que c'est une nounou qui le garde avec une autre petite qui s'appelle Blanche et qui est un mois chez nous et un mois dans l'autre famille. Donc, on a un mois où il est à la maison. Et comme on a des métiers aussi où on travaille beaucoup à la maison, bah, il faut s'organiser, quoi.
Il faut que tu racontes comment tu as trouvé ta co-famille.
Ah, la co-famille, c'est
Allez,
incroyable.
anecdote.
Alors, la co-famille, on perdait la première nounou. On a une première nounou qu'on a gardée un mois et on apprend un jour qu'elle va arrêter avec nous parce qu'elle déménage.
D'accord.
Donc, on est très embêtés. Ce jour-là, on a aussi rendez-vous chez le pédiatre. Donc, on part chez le pédiatre avec Leonardo. Et là, dans la salle d'attente, on parle avec une dame qui nous raconte que sa petite est gardée par une nounou qui est géniale, mais qu'elle va se remettre à travailler. Donc, sa nounou va passer à plein temps. Et donc, elle a besoin d'une co-famille avec cette nounou. Parce que cette nounou va lui coûter trop cher, comme elle va l'avoir à plein temps. Et nous, on lui dit, bah, c'est incroyable, on vient de se faire lâcher par notre nounou. Donc, nous aussi, on va chercher une co-famille. Elle nous dit, ah non, par contre, je vous préviens, moi, j'habite pas tout près de chez le pédiatre. J'habite à peu près à 20 minutes à pied. Et on dit, ah bah oui, c'est embêtant. Et on va dire, vous habitez où? Et elle nous dit, bah, j'habite près du canal. Et nous, en fait, on habitait l'immeuble d'en face de chez elle. On était aussi à 20 minutes du
Ah oui, il
pédiatre.
fallait vous rencontrer là,
Donc
c'était
voilà, donc
obligé.
c'était une rencontre improbable. Et du coup, on avait notre co-famille et on l'a plus quittée.
Alors Valentin, comme tu es très speed, j'imagine que tu fais plein d'activités. Tu dois être le papa qui propose à son fils d'aller au parc et en même temps de jouer au ballon et en même temps de faire du toboggan et en même temps prendre son goûter. Qu'est-ce que tu fais avec ton fils?
Alors, il adore le ballon. Il dit ballon, ballon, ballon tout le temps. C'est l'un des premiers mots qu'il a dit. Il le dit tout le temps. Et il est très fort en foot. Et ça, je suis assez
content. Ah, la fierté
content.
Du père.
Non, mais c'est vrai. J'ai vu des parents là qui avaient un enfant qui avait 6 mois ou 1 an de plus. Et ils étaient impressionnés par son niveau pour taper dans la balle.
Ah, donc en fait, quand tu me dis qu'il est très bon en foot, ce n'est pas un entraîneur qui t'a dit ça. C'est juste à comparer au parc.
Oui, j'ai comparé avec d'autres parents, exactement. Mais c'est déjà très bien pour moi. Et ensuite, on essaye de l'emmener. On a la chance, on a un café associatif près de chez nous où ils organisent plein d'activités pour les enfants. Donc il y a un apprentissage à la musique où ils leur donnent, ils choisissent un instrument. Donc lui, il adore taper sur des petits tambours. Et il y a une personne au piano qui joue du piano et eux, les enfants accompagnent.
Et je parie qu'il est doué pour le piano.
Et il est excellent. Non, ça, il est un peu moins bon. Non, il est bon au ballon, c'est déjà pas mal. Et sinon, en termes d'activités, on l'emmène au parc tout le temps faire du toboggan. Ça, il est fan aussi, mais c'est assez logique. Et il est très casse-cou, le nôtre. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. Partout où c'est dangereux, il y va, en fait.
Alors, il y a un post pour l'anniversaire de ton fils que j'ai lu. Tu avais mis une année d'apprentissage et de nouveautés durant laquelle tout a changé. Est-ce que donc tout a changé pour toi? Est-ce que tu as l'impression d'être aujourd'hui un papa qui peut donner plein d'autres conseils à d'autres papas?
Oui. De façon très, très pratique. Oui, je donne des conseils. En fait, j'ai ce truc où t'aimes bien parler avec les parents de l'éducation de ton enfant, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas.
C'est ton sujet passion.
C'est mon sujet. Alors, j'essaie de pas tomber que là-dedans, parce que justement, j'ai toujours voulu justement ne pas être que sur mon enfant, mais aussi être moi. Mais oui, c'est sûr que t'en parles beaucoup plus et que oui, c'est ton sujet passion. Parce que t'es gaga au fond, quoi. Donc, tu vois, il est en fond d'écran de mon téléphone.
Et c'est accepté.
Donc ça, voilà, c'est accepté, ça passe. Mais oui, c'est mon sujet. Pas sûr, je parle beaucoup de Leonardo au quotidien.
Comment t'es en tant que compagnon de vie aussi? Parce que là, on a parlé beaucoup de ton enfant. Mais est-ce que tu aides ta femme à trouver son rôle de mère? Est-ce que tu l'accompagnes beaucoup ou est-ce qu'elle est sûre d'elle, elle, comme toi?
Non, mais nous deux, on n'est pas sûrs. Hein. Donc, on en parle beaucoup, pour le coup, de ça. Mais on a, on va dire, relativement la même façon de fonctionner. Ça veut dire qu'on va, elle comme moi, alors elle a peut-être lu un peu plus de livres que moi, mais on est quand même, on fonctionne pas mal au feeling, tous les deux. Donc là-dessus, on est assez similaires, quoi. On se complète pas, mais on est similaires. Et quand on a des doutes, on va sur Internet, on va demander à nos parents. Mais on fonctionne assez pareil, ouais.
Et par rapport à l'après-grossesse, son postpartum, est-ce qu'elle a eu du mal à retrouver une activité physique? Est-ce qu'elle a eu du mal à retrouver son corps? Comment t'es face à ça? Parce que souvent, on vous sent quand même assez désemparé, quoi.
On est désemparé, oui, je te confirme qu'on est désemparé. Parce que Pauline vient de reprendre le sport. Et ça fait quand même 2 ans que Leonardo est né. Et elle reprend tout juste le sport. Donc, ça a mis du temps. Et c'est vrai qu'on est désemparé le postpartum, le moment où ça fait des hauts et des bas en termes de morale. C'est vrai que nous, on regarde ça et on essaye de l'aider et de comprendre. Mais c'est quelque chose pour nous, ça reste quelque chose qu'on a du mal à comprendre, quoi. Donc, on peut l'accepter. On peut essayer de l'accompagner, mais c'est vrai que c'est quelque chose de dur à vivre pour nous aussi.
Et dans ces cas-là, vous dites « Ah mais si, t'es trop belle !» et nous, on l'entend pas du tout à ce moment-là.
Oui, c'est exactement ça. Ouais, on essaie d'être très rassurant, exactement. On essaie d'être très rassurant, de dire à quel point elle est géniale, à quel point c'est une bonne mère, à quel point elle reste magnifique. Et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance, elle reste magnifique. Et donc voilà, on essaie d'accompagner comme ça, quoi.
Avec tes horaires de matinale, est-ce que c'était compatible avec ton rôle de papa? Parce que du coup, tu pouvais pas le voir le matin.
Ouais.
Et t'as un sommeil un peu haché, j'imagine qu'il y a des moments où t'es extrêmement fatigué.
Ouais, j'ai des moments où je suis extrêmement fatigué. Alors les premiers mois, on se levait, on va dire, à égalité avec Pauline. Et après, elle a un peu pris le relais. C'est là où elle était quand même assez cool.
Elle était
cool.
Sympa.
Ouais, c'est qu'elle a un peu pris le relais. Parce que moi, la fatigue, pour le coup, j'étais vraiment au chaos. Mais c'est-à-dire que la nuit, c'est les papas qui font semblant de ne pas entendre leur bébé. Moi, je l'entendais vraiment pas, en fait. J'étais tellement fatigué. Comme je fais des nuits de 5-6 heures en général, j'ai des nuits assez courtes. J'étais vraiment chaos. Alors ouais, c'est vrai que le fait que je le vois pas le matin, c'est très difficile. Parce que du coup, je le vois le week-end, le matin, et un bébé au réveil, c'est quand même incroyable.
C'est là où t'as les bisous.
Ben c'est là.
C'est tout chaud, le pain au chocolat.
Ah, moi, les câlins, je les ai le soir quand même. J'ai la chance d'avoir les câlins avant le sommeil du soir. Mais c'est vrai que un bébé le matin, c'est quand même incroyable. Et ça, je l'ai pas. Et ça m'a pas mal manqué. Alors, Pauline, j'ai de la chance, m'envoie beaucoup de vidéos. Quasiment tous les matins, j'ai une petite vidéo de Leonardo. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est vrai que ça a été dur à vivre quand même de pas le voir le matin.
Alors là, t'as un rythme de vie soutenu. J'imagine que faut quand même même faire attention à toi, donc tu dois faire du sport, sûrement bien manger, je te le souhaite. Quand il y a un enfant qui arrive, souvent on abandonne le sport. Est-ce que c'est ton cas ?
Ouais, alors moi j'ai abandonné le sport, mais pour une bonne raison, je fais du tennis et je me suis fait des entorses aux deux poignets. Donc ça fait que j'ai arrêté pendant 6 mois.
C'est une bonne excuse.
C'est une bonne excuse, exactement. Mais sinon, non, j'essaie de continuer le sport. Moins qu'avant, mais comme en fait, comme moi j'ai un métier qui s'arrête, on va dire, avec la matinale à 13h, je suis libre et que la nounou est là jusqu'à 18h, et ben j'ai quand même tout l'après-midi pour faire de sport. Donc j'ai moins cette excuse de j'ai une journée de travail classique, j'ai le bébé le matin et le bébé le soir.
Donc c'est sieste ou sport, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et c'est souvent, c'est pas sieste.
Ouais. Ok, et est-ce que tu penses à un autre enfant, maintenant que t'es un papa confirmé, on va dire ?
Alors, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit c'est sûr que non. Et là, on se pose la question. En fait, au début, j'en voulais 3, j'en voulais 4, j'en voulais plus. Là, je me dis qu'un, c'est très bien. Et on se dit aussi, ce serait bien qu'il ait un petit frère ou une petite sœur, quoi, pour s'amuser. Donc, on y réfléchit.
Et Pauline est d'accord ? Est-ce que vous êtes en phase ?
Ouais, Pauline est exactement en phase avec moi. Ça veut dire qu'on n'est encore pas sûr de se dire, est-ce qu'on va avoir la force d'en faire un deuxième et de repartir dans ce rythme de vie, dans les couches ? Parce que c'est reparti pour 2-3 ans ensuite, quoi.
Oui, parce que l'équilibre, il est quand même modifié.
Ouais, l'équilibre est complètement modifié, ouais.
Tu l'as senti ?
Ouais,
le tourbillon ?
Ah oui, je l'ai senti, ouais. Alors après, on retrouve, en fait, on réapprend à vivre un peu différemment, quoi, avec une troisième personne. En fait, c'est tellement de bonheur. Donc, au début, t'es submergé par le bonheur. Et après, tu te dis, ah oui, il faut quand même que je pense aussi à mon couple. Et donc là, on essaie de retrouver un équilibre. Et je pense qu'on l'a bien trouvé.
Alors, quel conseil tu pourrais donner aux papas qui nous écoutent, si je te suis ?
Alors, pour les papas ou pour les couples ?
Ah, pour les papas, mais pour le couple.
Ok. Franchement, le conseil numéro 1, c'est d'être en soutien avec la maman, puisqu'en fait, on va dire, on effleure ce que vous vivez en termes de grossesse, d'émotions, de montagne russe au niveau des hormones. Et c'est de penser à son couple aussi, quoi. C'est qu'il y a le bébé qui est là et c'est génial et il nous prend tout notre temps. Mais il faut quand même réussir, pour moi, à se dégager des moments pour penser à son couple et rester un couple, quoi.
Si tu pouvais, t'aurais voulu le porter ?
Le bébé ?
Ouais.
Je sais pas.
C'est la colle. Ouais, t'es en train de paniquer là, cette question.
Le porter, je sais pas.
Bon, alors pour finir, une question beaucoup plus facile, quoique, c'est la question que j'aime bien poser à la fin de l'émission. Sur le papier, une grossesse, c'est 280 jours, normalement.
Okay. Alors,
bien entendu, on sait ce qui peut arriver. Mais toi, tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps, combien de jours pour devenir papa ?
Après la grossesse ou pendant la grossesse ?
Justement, je te laisse ouvert.
Je pense très honnêtement que je suis vraiment devenu papa le jour où Leonardo est né. C'est-à-dire que c'est là que j'ai vraiment réalisé que ma vie serait plus pareille. Et puis il était là, il était tellement beau, il était tellement mignon. Et j'ai tellement pleuré que je me suis dit ma vie sera plus pareille, quoi.
Et ce qui est fou, c'est aussi le jour où tu as accepté de changer de vie.
Ouais, et ça c'est
ça
vrai.
Coïncide bien.
Ça c'est vrai, exactement.
Merci Valentin.
Ben, merci Carole.
Merci pour ton sourire et tes bonnes énergies. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, je suis sûre qu'il y a des papas qui vont vouloir te contacter sur Instagram pour en savoir encore plus sur toi.
Je suis là pour ça, avec plaisir.
Allez, salut. Merci d'avoir écouté Mode Parent Activé, le podcast cofinancé par les produits laitiers et l'Union européenne, signé Chérie FM. Ensemble, nous avons une mission, lutter contre la sédentarité. Et pour cela, on vous raconte des histoires de parentalité qui bougent, mais pas que. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, ce serait quand même dommage de rater un épisode. Et si vous aimez ce podcast, allez, laissez-nous un petit commentaire, des étoiles, ça nous donnera un petit boost d'énergie pour la suite. Mode Parent Activé est disponible sur le site de Chérie FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors, à très vite !